Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Et aujourd'hui, nous recevons René Balin, président de l'Observatoire de l'hébergement et du logement d'Un Toit pour Tous, pour parler mal-logement à l'occasion de la matinée de rencontre organisée ce jeudi 1er février 2024. Bonjour.
Bonjour.
Un Toit pour Tous, c'est une association qui a été créée en 1993 par des citoyens grenoblois pour lutter contre le mal-logement. Ça fait donc plus de 30 ans maintenant. Quelles ont été les grandes actions de l'association pendant ces années?
Ce qui a été fondateur dans la création d'Un Toit pour Tous et qui continue à être une priorité pour l'association, c'est d'apporter des solutions concrètes aux personnes vulnérables, en situation de fragilité, que ce soit pour des raisons sociales ou pour des raisons économiques, et donc de produire des logements. Alors produire de différentes façons, grâce aux subventions de l'État, on achète des logements à l'unité, distribués dans la ville, de façon à favoriser l'insertion, l'intégration des personnes que l'on loge. Et puis il y a un deuxième vecteur de développement de l'offre, c'est de faire appel à des propriétaires privés pour qu'ils nous confient leur logement en location et donc qu'on puisse y faire accéder des personnes vulnérables à faible ressources. Voilà. Et pour cela, on apporte un certain nombre de services par le biais de notre agence immobilière à vocation sociale qui est territoire, de façon à ce que les propriétaires courent un minimum de risques quand ils ont une action de solidarité et qu'ils mettent des logements à disposition.
Donc Un Toit pour Tous héberge une agence immobilière.
Oui. Parmi les structures qui sont sous le chapeau Un Toit pour Tous, il y a une agence immobilière à vocation sociale qui a été la première créée en France. Depuis, il y en a un certain nombre qui ont couvert un peu le territoire, notamment dans les grandes villes, mais pas seulement, et qui ont cette même fonction.
À vocation sociale, ça veut dire que ça va proposer des loyers qui sont peu chers?
Voilà, ça propose des loyers qui sont les plus bas possibles, parmi les loyers financés par l'État comme des logements sociaux, ce qu'on appelle les PLAI. Retenez que ce sont des logements très sociaux qui offrent des loyers tout à fait supportables et qui sont ouverts à des ménages sous certains plafonds de ressources, évidemment.
Alors, vous avez parlé de logements très sociaux. J'ai retrouvé ce terme sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre très sociaux et sociaux?
Alors, ça part de la définition des logements sociaux. Vous avez trois catégories de logements sociaux. Des logements sociaux intermédiaires qui sont financés d'une certaine façon à travers ce qu'on appelle le PLS, le prêt locatif social. Puis vous avez le logement social de base qui est financé avec un prêt particulier, c'est le prêt locatif à usage social, le plus, et les logements très sociaux, je l'ai dit, qui sont financés en PLAI, prêt locatif, d'insertion, et puis prêt locatif aidé d'insertion, et qui sont ouverts à des ménages qui ont des ressources plus faibles que ceux qui rentrent dans les logements sociaux ordinaires. et qui ont des ressources plus faibles et qui bénéficient aussi de loyers plus faibles. Voilà d'où vient la différence entre logement social et logement très social.
D'accord,
voilà.
Donc trois catégories de logements sociaux, mais j'ai perdu ma question. Bah, déjà, la question que j'avais au départ, en fait, c'était, quand on parle de mal logement, c'est quoi les limites, c'est quoi les barrières, qu'est-ce que ça englobe? Et voilà.
Si vous permettez, je voudrais revenir un peu, vous m'avez demandé qu'est-ce que c'est qu'un toit pour tous. J'ai insisté sur la dimension principale qui est de produire des solutions pour les personnes qui sont privées de logement, mais a aussi une particularité, c'est au sein d'un toit pour tous, il y a un observatoire de l'hébergement et du logement qui est là pour développer un certain nombre d'études, mieux connaître justement le mal logement, le faire connaître, aussi solliciter, interpeller les élus pour qu'ils adaptent leur action à la réalité des problèmes que rencontrent les personnes sur le terrain.
Voilà. L'observatoire dont vous êtes le président d'ailleurs.
Voilà.
Donc l'observatoire, c'est des études sociologiques.
Oui.
Et de la communication auprès des politiques.
Voilà.
Ok.
On revient sur le mal logement, peut-être.
Et ben, en fait, je me souviens de ma question que je voulais vous poser. On va un peu dans tous les sens dans l'émission-là. C'était à chaque fois que vous avez parlé des trois types de logements sociaux, vous avez dit financé à travers un PLAI, à travers un PLAI. Mais c'est financé par l'État ?
Alors, c'est compliqué. J'ai essayé de faire simple. Le logement social, historiquement, était financé par des subventions de l'État auxquelles se sont ajoutées au fil du temps des subventions des collectivités locales.
D'accord. Okay.
Mais le financement principal du logement social, c'est à travers des prêts de la Caisse des dépôts et consignations sur la ressource du livret A, ce qui permet d'avoir des taux pour ces prêts relativement bas. Voilà. Et c'est ça le financement principal. Il y a des subventions, État, collectivité locale, en gros, des prêts de la Caisse des dépôts et consignations, et également des fonds propres apportés par les organismes HLM pour contribuer au financement. Et ce qui est dramatique dans la situation que nous vivons, c'est qu'il y a de moins en moins de subventions de l'État pour financer le logement social. Il n'y en a plus pour le PLS, il n'y en a plus pour le logement social de base le plus. Il demeure quelques subventions pour le PLAI, les logements très sociaux.
Très sociaux. Et la Caisse des dépôts et des consignations, c'est une banque nationale ?
Oui, c'est un organisme para-étatique qui gère un certain nombre de choses, et notamment la collecte, la ressource du livret A. Hein, qui sert à financer les actions des collectivités locales et des organismes HLM. Il y a aujourd'hui un débat sur est-ce que ces financements-là ne pourraient pas être utiles aussi pour financer, par exemple, les industries de défense ou autres. Voilà.
D'accord. Ce qui n'a plus rien à voir avec le mal logement.
Pas grand-chose.
Et donc, le mal logement, maintenant, on peut en parler.
Oui.
C'est quoi, du coup, la définition du mal logement
Alors, peut-être partir d'où c'est venu quand j'ai travaillé avec la Fondation Abbé Pierre dès l'origine pour rédiger un rapport sur la situation des personnes en difficulté ou des personnes vulnérables. On cherchait un titre pour son rapport la première année où on l'a fait, et un des collègues qui était présent qui dit on pourrait lui donner le nom rapport sur l'état du mal logement. Alors pourquoi mal logement ? Parce que on voulait pas simplement que ça fasse référence au mauvais logement, vous voyez, au logement de mauvaise qualité, au logement insalubre, que ça renvoie uniquement, par exemple, aux conditions d'habitation, au logement surpeuplé. Ça, c'est une dimension du mal logement. On cherchait une dimension plus englobante qui recouvre différents types de situations. Et avec la Fondation Abbé Pierre, moi j'ai pas mal travaillé avec eux justement pour définir. Donc il y a un certain nombre de manifestations du mal logement qui se sont progressivement déployées dans le temps. Il y a l'absence de logement, on y reviendra peut-être. Hein.
Donc les personnes sans domicile.
Les personnes sans domicile personnel, les personnes à la rue, etc. où les personnes, même en hébergement, mais qui sont en attente d'un logement. Vous avez deuxième manifestation du mal logement importante, c'est les difficultés d'accès au logement. Ça renvoie à est-ce qu'il y a une offre suffisante, ce qu'on disait sur les logements sociaux. Est-ce qu'on a suffisamment de logements sociaux pour loger tous ceux qui ne peuvent pas accéder à un logement compte tenu de leur niveau de ressources? Ça, c'est la deuxième difficulté que recouvre le mal-logement. La troisième difficulté, vous pouvez être dans un logement, mais il peut être de mauvaise qualité.
L'insalubrité.
Manque de confort, insalubrité. Et aujourd'hui aussi, ce qu'on appelle la précarité énergétique. Les gens qui n'arrivent pas à chauffer ou qui dépensent trop pour ce jeu, ça renvoie aux conditions d'habitation. Quatrième difficulté, quatrième manifestation du mal logement, c'est la difficulté qu'on peut avoir à demeurer dans son logement parce que il y a une rupture familiale, parce que une des personnes est au chômage, parce qu'il y a un problème de maladie qui va se retrouver avec une perte de revenus et donc une difficulté à rester, à demeurer dans son logement, qui est une dimension tout à fait importante. Voilà, tous ceux, en fait, qui n'ont pas les ressources suffisantes, même quand ils ont accédé à un logement, pour y demeurer, qui vont se retrouver en impayé, avec un risque d'expulsion locative, qui sont en hausse très inquiétante ces deux dernières années, après la trêve de la Covid. Et puis, dernière dimension du mal-logement, qui est très importante, c'est ceux qui ont des difficultés à changer de logement, ceux qui ont des difficultés à accéder au logement qui leur conviendrait, à un logement situé dans un meilleur environnement. Et c'est là-dessus aujourd'hui que se fait une différence importante dans la société entre ceux qui peuvent choisir leur logement et par là leur quartier, leur environnement, et ceux qui ne peuvent pas changer de logement. Et vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes qui sont bloquées dans le logement, notamment dans le logement social. Vous avez aujourd'hui, dernier chiffre, 2 600 000 demandeurs de logements sociaux. Vous en avez un tiers à peu près qui font une demande de mutation pour pouvoir changer, mais encore faut-il qu'il y ait des logements disponibles.
Mmh. Donc là, vous nous avez donné ce chiffre-là sur les demandeurs d'hébergement social.
De logement social.
De logement social. Est-ce que vous avez d'autres chiffres actuellement sur la situation en France ou à Grenoble?
Les deux. Peut-être que le problème aujourd'hui, le plus difficile, c'est le fait qu'on se trouve dans une situation de crise très profonde du logement. Parce qu'on n'a pas accordé assez d'attention de la part des pouvoirs publics, parce qu'on a réduit les financements, notamment en direction du logement social et des logements sociaux. Du logement social et qu'on est dans une très grave crise de la production qui se traduit notamment par une baisse du nombre de mises en chantier. On va être autour de 300 000 alors que des études sur les besoins en France montrent qu'il faudrait construire entre 400 et 450 000 logements par an. Toutes catégories confondues, logements privés, logements sociaux.
Et ceci en tenant compte des logements inoccupés qui pourraient être rénovés?
Alors ça, c'est un autre problème. Il y a effectivement un gisement de logements qu'on dit vacants. Encore faut-il examiner pour quelles raisons ils sont vacants. C'est très compliqué de pouvoir étudier cette question. Il y en a qui sont vacants entre deux occupations, ça c'est pas très grave. Il y en a qui sont vacants parce que les propriétaires souhaitent vendre. Il y en a qui sont vacants parce que le propriétaire garde quand c'est en ville pour pouvoir loger ses enfants quand ils sont étudiants. Il y en a d'autres qui sont mis de côté pour être orientés vers la location touristique, vers Airbnb, etc. Ceci étant, il y a quand même un nombre important de logements vacants. Je voyais l'autre jour un chiffre, je crois que c'est 17% des logements à Grenoble qui sont des logements vacants. Donc à l'évidence, il y a un gisement là dans lequel on pourrait récupérer, mais ça sera insuffisant de toute façon par rapport à l'ensemble des besoins tels qu'on les imagine, qu'on les calcule aujourd'hui. Alors on est dans une grave crise, une crise qui était prévue avec la Fondation Abbé Pierre, ça fait 5 ans qu'on alerte, et depuis quelques mois, c'est l'ensemble des acteurs du logement, les promoteurs immobiliers, les entreprises du bâtiment, les agences immobilières, les notaires, les courtiers qui se sont réunis dans un mouvement qui s'appelle l'Alliance pour le logement pour alerter le gouvernement sur cette insuffisance de l'offre. Et non seulement cette insuffisance, mais l'absence de prise en considération de la question du logement par les pouvoirs publics. Il ne vous a sans doute pas échappé qu'on a un nouveau gouvernement déjà depuis un certain temps maintenant et qu'il n'y a toujours pas de ministre du logement malgré l'extrême gravité de la situation en la matière.
Et donc ça explique la création de l'Alliance pour le logement. Mais est-ce que cette alliance n'avait pas été déjà réalisée avec le Conseil national de la refondation? Ce n'étaient pas les mêmes acteurs?
Si, vous retrouvez à peu près les mêmes acteurs, puisque sur la pression du mouvement associatif, mais aussi du mouvement HLM, des promoteurs que j'indiquais tout à l'heure, des entreprises du bâtiment, le Conseil national de la refondation, qui était une instance mise en place par le président de la République après sa réélection en 2022, ne s'était pas saisi de la question du logement aujourd'hui. Il a fallu la pression de tous ces acteurs pour qu'il y ait une séquence qui s'ouvre consacrée au logement à l'automne 2022. Les conclusions ont été remises au printemps 2023. C'était présidé à la fois par Christophe Robert, qui est délégué général de la Fondation Abbé Pierre, mais aussi par Véronique Bédague, qui est le PDG de Nexity, un des gros promoteurs immobiliers en France, et qui a réuni 200 acteurs pendant plusieurs mois pour travailler, a fait toute une série de propositions dont le gouvernement n'a à peu près rien retenu, sauf quelques mesures périphérique.
D'accord, donc ça c'est assez fou quand même. Depuis ces 30 ans, donc ça s'aggrave parce qu'il y a cette non prise en compte par le gouvernement. Est-ce que vous voyez d'autres causes qui font que la crise du logement est de plus en plus profonde?
Bah, ça vient d'un profond désajustement entre la production, les caractéristiques. J'ai dit on produisait insuffisamment, mais on produit aussi une offre qui est insuffisamment adaptée aux caractéristiques des ménages, et notamment à leur niveau de revenu. Et donc, les deux grands mouvements, c'est les insuffisances de la construction et son adaptation. Et puis d'un autre côté, la montée de la précarité, de la pauvreté au sein de la société. Donc, quand vous laissez l'ajustement entre la demande et l'offre de logement aux mains du marché, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un certain nombre d'exclus et de personnes en très grande difficulté, marginalisées, et qui viennent grossir le nombre de personnes sans domicile personnel.
Mmh. Et dans cette optique, il y a des personnes qui s'organisent, par exemple avec le logement participatif qui rachète des immeubles à plusieurs. C'est ce que vous faites aussi un petit peu avec la coopérative foncière solidaire?
Pas directement parce que c'est un type d'initiative tout à fait intéressant. Ils peuvent être accompagnés par des organismes HLM dans ce type de démarche. Nous, on essaie plutôt d'intervenir là où il n'y a pas d'acteur, là où il n'y a pas d'intervenant. C'est-à-dire que les organismes HLM n'achètent pas des logements à l'unité répartis dans la ville pour y loger les plus vulnérables. Leur structure ne leur permet pas. Ils font un travail tout à fait essentiel, mais on intervient de façon complémentaire.
D'accord, mais avec les mêmes problématiques et sur des fronts un petit peu différents. Mmh. Et donc on a parlé du 1er février parce que c'est les rencontres de Un Toit pour Tous. Mais le 1er février, c'est aussi une date très importante pour le mal logement, puisque c'était en 1954 qu'il y a eu l'appel à la radio de l'abbé Pierre pour un appel à livrer des couvertures, à livrer tout type de biens qui pourraient aider les personnes à la rue. Et donc, tous les 1er février, c'est la publication du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, dont vous participez à la rédaction.
Voilà. Et on va publier, donc, ce jeudi, 1er février, le 29e rapport sur l'état du mal logement en France, produit par la Fondation Abbé Pierre. Quand on peut, on organise ça le 1er février, hein, en mémoire de l'appel de l'abbé Pierre, mes amis au secours, hein, suite à la mort d'une femme dans la rue à Paris, qui tenait dans sa main le titre d'expulsion du logement dont elle avait été chassée, quoi. Ce qui est triste et dramatique, c'est que dans la période récente, là, il y a eu encore 4 morts à ma connaissance. Personne morte à la rue, quoi. Hein. Mmh. Et tous les ans, c'est le même drame qui s'en répète, quoi.
Et ce, malgré la Fondation Abbé Pierre, malgré les associations comme Un Toit pour Tous.
Ben, les solutions que la Fondation Abbé Pierre soutient, l'action, notamment l'action d'Un Toit pour Tous, apportent des solutions. Elles ne sont pas à la hauteur, quoi, c'est tout. Mmh. Mais c'était quelque chose qui était très important pour Un Toit pour Tous, c'est de montrer à travers la réalisation que c'est possible. Quoi. Ouais. Que ce qu'il faut, c'est amplifier cette action, compte tenu de l'ampleur du phénomène de la privation de domicile personnel, quoi, hein, sur le département de l'Isère, on n'est pas épargné par cette question-là, loin de là.
Mmh. Hein. Vous êtes combien de bénévoles à Un Toit pour Tous ?
Écoutez, il doit y avoir un peu plus de 200 adhérents, mais on fait une distinction entre les adhérents et les bénévoles. Les bénévoles, c'est ceux qui s'impliquent de façon plus active, hein, dans un certain nombre d'actions concrètes pour soutenir l'action d'Un Toit pour Tous. Hein. Mm-hmm. Par exemple, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les bénévoles bricoleurs qui vont chez les personnes qui n'ont pas de qualité d'intervention en termes de bricolage très développé pour leur donner un coup de main quand il faut changer un joint, quand il faut refaire les peintures ou autre. Ça fait partie des différents groupes de bénévoles qui œuvrent autour d'Un Toit pour Tous. Il y en a bien d'autres.
Et il y a aussi des salariés ?
Un Toit pour Tous ?
Oui.
Oui. Une quarantaine de salariés aujourd'hui, notamment dans l'agence immobilière à vocation sociale. On gère aujourd'hui 750 logements, à peu près. Principalement dans l'agglomération grenobloise, un certain nombre aussi dans le pays voironnais, et puis de plus en plus dans le Grésivaudan. Voilà. Donc pour loger 750 personnes, ben, y a des tas de tâches de gestion locative, faire les quittancements, s'assurer de la rentrée des loyers, etc. Et puis, je vous l'ai dit, on loge des personnes qui sont en situation fragile, des personnes vulnérables, donc on a un grand nombre de travailleurs sociaux, une dizaine, une douzaine, qui interviennent auprès de ces personnes pour les aider. Voilà.
Comment ça se passe, vous, quand vous avez des impayés de loyer dans votre agence immobilière ?
Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on surveille, comme le lait sur le feu, les impayés pour ne pas laisser les personnes se mettre en difficulté. Que tout impayé, c'est un signal. Donc, la règle, c'est de prendre contact avec ces personnes. C'est notamment la tâche des travailleurs sociaux que j'indiquais à l'instant, d'examiner les causes de cet impayé. Hein. Ça peut être une rupture de ressources, ça peut être aussi des droits à l'APL qui sont plus ouverts. Et donc, le travail consiste à les aider à ouvrir ses doigts pour se remettre en situation de pouvoir payer leur logement et de pouvoir demeurer dans son logement. Ceci dit, il peut arriver que on ait des, entre guillemets, des mauvais payeurs, ça arrive, et on est amené à faire quelques rares expulsions chaque année, avec comme règle de chercher une solution de relogement, surtout pas d'expulsion sèche, mais de trouver une solution. On prenne un autre bailleur, d'une solution d'hébergement temporaire ou autre.
Et vous, toutes vos places d'hébergement sont remplies ?
On n'a pas directement de place d'hébergement à Tobertos. Hein.
De logement.
Ah oui, on a un taux de vacances qui est très faible, qu'on cherche à réduire pour faire, compte tenu de l'ampleur de la demande, pour que les logements ne restent pas vides. Quoi. Voilà.
Parce qu'à Grenoble, c'est quoi la demande de logement ?
Je crois qu'on est au niveau de l'Isère, on va vérifier les chiffres, hein. Je crois qu'on est à 24 000 demandes, non, on est à plus que ça, on doit être à 32 000 demandeurs de logements sociaux à l'échelle de l'Isère, et la moitié en gros sur l'agglomération grenobloise.
32 000, et sachant que si c'est des personnes qui se logent à plusieurs, c'est une demande par foyer ?
C'est une demande par ce qu'on appelle un ménage. Hein, donc ça peut recouvrir deux personnes qui veulent cohabiter, ça peut couvrir une famille, un couple avec des enfants, une personne seule de plus en plus avec des enfants, ou de plus en plus aussi des personnes seules. Hein. Mmh. On avait 50% des logements grenoblois qui sont occupés par une seule personne. C'est aussi une des évolutions de la demande qui est très importante, c'est la diminution de la taille des ménages. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de ménage d'une seule personne, ce qui fait que la demande de logement augmente plus rapidement que la population.
Forcément.
Et puis ça a aussi une autre conséquence très importante, c'est en termes de fragilité. Quand vous avez un couple avec deux personnes qui travaillent, il y en a un qui peut se retrouver au chômage, il y a la ressource de l'autre qui compense, qui aide avec les indemnités de chômage. Quand vous n'avez qu'une personne adulte dans le ménage, eh bien, tout est lié à la situation de cette personne.
Oui, ça fragilise beaucoup.
Cette situation-là, cette évolution démographique fragilise beaucoup les personnes vis-à-vis de leur logement.
Et concernant la vie en colocation, est-ce qu'il n'y a pas des personnes de plus en plus âgées qui ont envie de faire ce mode de logement comme ça ?
Sans doute, mais on n'est pas les bons interlocuteurs hein, pour ça. Il faudrait regarder d'une façon plus générale dans la demande HLM. Mais c'est un phénomène qui est signalé, mais je ne saurais pas le traduire. En tout cas, pour nous, il est de peu d'importance.
D'accord. Et donc, vous êtes engagé il y a 30 ans dans Un Toit pour Tous, dès la création. Et dans la Fondation Abbé Pierre, ça fait depuis le début, vous avez dit à un moment, mais...
Oui, la Fondation Abbé Pierre, il y a eu tout un mouvement dans ces années-là, fin des années 80, début des années 90. C'est pas pour rien, parce qu'il y a une loi très importante, celle du 31 mai 90, à laquelle on donne souvent le nom du ministre qui l'a initié, qui est Louis Besson, qui était ministre du Logement en 90, et qui a fait la première loi significative en faveur du logement des personnes défavorisées. C'était le titre de la loi qui a mis en place un certain nombre de moyens hein, pour faciliter l'accès au logement et l'accompagnement de ces personnes. Donc, il y avait une certaine effervescence à cette période autour de cette question du logement des plus vulnérables. Ça a donné à Grenoble la création d'Un Toit pour Tous, au niveau national, la création de la Fondation Abbé Pierre, par exemple.
Mmh. Et à Grenoble, quels ont été les bâtiments qui ont été construits, les HLM qui ont été construits suite à ça ?
Bah, disons que nous, on est un peu de poids hein, sur la construction du logement social. Si je vous ai expliqué, c'est les grands mécanismes de financement qui existent. Puis les acteurs majeurs, ce sont les organismes HLM. Nous, on était surtout attachés à développer le parc complémentaire du logement social que je vous ai indiqué. Quoi. Mmh. Mais depuis, on... on en a terminé depuis ces années-là, 90, de la construction de grands ensembles. Ça s'est même arrêté bien avant, hein, depuis maintenant 30 ans, même un peu plus. Les opérations HLM qui se réalisent sont des opérations de petite taille, quelques logements, une dizaine, quinzaine de logements sociaux, quoi.
Dans le paysage grenoblois, ils sont où ces HLM
qui on les voit plus. On les voit plus.
On passe devant.
Non, c'est pour ça que dans le paysage grenoblois, vous évoquez toujours Mistral, vous évoquez toujours la Villeneuve, Jouot, ou quelques ensembles de ce type. Aujourd'hui, une opération de logement social, elle est parfois, je ne voudrais blesser personne, mais de meilleure qualité que la promotion privée. Donc, vous ne risquez pas de la voir. Et puis, de plus en plus souvent, la production de logements sociaux se fait de façon mixte. C'est-à-dire, c'est les promoteurs immobiliers qui lancent un programme, 40, 50 logements, et qui vont à l'intérieur de ce programme intégrer des logements sociaux que les organismes achètent et gèrent par la suite. Mmh. Et donc, ça contribue à invisibiliser le logement social.
Mais aussi à faire peut-être de la mixité.
Tout à fait.
Comme c'est au même endroit.
Tout à fait. Ça contribue à faire de la mixité. Et ça contribue aussi à éviter les levées de boucliers contre les logements sociaux. Parce que quand il y a un panneau de construction qui se met, c'est le promoteur immobilier qui le met. Il faut regarder de près pour voir qu'il y a des logements sociaux à l'intérieur de ce programme.
C'est quoi l'intérêt pour les promoteurs immobiliers de faire des logements sociaux? Est-ce qu'ils ont des convictions personnelles ou...
Il y a des règles qui imposent de construire, dès que vous avez un programme de plus de 10 logements, c'est d'avoir un certain nombre, un certain pourcentage de logements sociaux à l'intérieur du programme. Ça, c'est une obligation légale. Qui est lié à l'obligation de la loi de 2000, l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose aux communes de plus de 3500 habitants d'avoir 20 à 25% de logements sociaux dans leur patrimoine. Donc les communes, elles ont traduit ça par une obligation faite aux promoteurs d'introduire des logements sociaux dans leur programme. C'est aussi un intérêt politique, hein, pour les élus. Ça évite les oppositions à la construction de logements sociaux.
Mmh. Ça permet de construire les logements sociaux discrètement.
Comme vous le dites.
Bon, eh bien, merci. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre. Donc, on fait un échange avec des radios européennes. Et là, on va écouter une création de Radio Helsinki en Finlande.
Indire, featured song.
This is your community radio Helsinki from Graz in Austria, and we are thrilled to present our featured song of the week, Felix Kramer with Deine Gründe, Your Reasons. It's a clever exploration of linear life choices and conformity to capitalism among seemingly rebellious hipsters in the media industry. Felix sings with a mix of sadness and genuine empathy, avoiding cheap mockery and expressing compassion for the inner struggles that life imposes, whether pondering the human desire for control in an unpredictable world. He's always reflecting on himself too. This is Felix Kramer and Deine Gründe.
Die Bar ist eher ein bisschen fancy, aber es gibt wirklich gute Drinks. Und das Viertel ist echt cool, bisschen underground und links. Deine Kollegin von der Werbeagentur kommt auch noch mit. Und vielleicht noch eine Freundin, aber sonst sind wir halt zu dritt. Du findest Werbung eh auch scheiße, aber man muss halt Miete zahlen. Und du willst was mit Sprache machen, da hat man fast keine Wahl. Und wenn du's nicht machst, macht's wer andere. Und das bringt dann auch nicht viel. Es ist doch besser, man ist im System, wenn man was dran ändern will. für alles deine Gründe. Und es ist nicht so leicht. Man kann nicht alles richtig machen, aber du findest, dass es reicht. Und ihr seid beide extrem flirty und fast wär schon was passiert. Aber du glaubst, er will nichts Ernstes und dass das dann zu nichts führt. Du würdest dich ja eh nicht trennen wollen, es zahlt sich nicht aus, weil Beziehung heißt auch Streit und da lernt man auch was draus. Und du willst dann nicht Mitte 30 plötzlich ganz allein da stehen, weil du willst unbedingt Kinder und das wird nicht ewig gehen. Und du bist wegen ihm hergezogen und er ist ja auch urtoll. Und ich soll jetzt nicht sagen, wie du dein Leben führen sollst. Du hast für alles deine Gründe und es ist nicht so leicht. Und man kann nicht alles haben und du findest, dass es reicht. Du willst jetzt nichts Falsches machen. Deine Gründe und es ist nicht so leicht und man kann nicht alles haben und du findest, dass es reicht.
Et de retour sur les ondes de Radio Campus 90.8, toujours sur l'apérophonie concernant le mal logement avec René Balin. Et on est là au départ pour présenter les rencontres de ce jeudi 1er février, donc la quatrième édition des rencontres d'un toit pour tous, qui a pour problématique une crise du logement qui s'aggrave, quels impacts pour les plus démunis, quelle marge de manœuvre locale.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du programme de cette matinée de rencontres?
Oui. Le programme, il est un peu dans le titre. Hein. J'ai évoqué dans la première partie de cette émission la gravité de la crise du logement. Et elle sévit particulièrement dans les grandes agglomérations, donc à Grenoble. Et dans un tel contexte de crise, il n'est pas difficile d'imaginer que ce sont les plus modestes, les plus démunis qui sont les premiers touchés et les plus impactés par cette crise du logement qui se traduit dans un premier temps par une baisse de la mobilité, c'est-à-dire les gens restent où ils sont, ils ne libèrent pas de logement. Hein, on a vu ces derniers mois avec la hausse des taux, par exemple, les conditions plus difficiles que mettaient les banques pour octroyer des prêts. Un certain nombre de ménages ont renoncé à accéder à la propriété. Ce faisant, ils ne libèrent pas les logements locatifs qu'ils occupaient, ils ne permettent pas à des ménages de bénéficier de ces logements. Il faut savoir que, y compris dans le logement social, l'essentiel des logements disponibles, ce sont les logements qui se libèrent. La construction neuve, elle intervient pour 10 à 15%. Dans l'offre qui est disponible chaque année. Le reste, ce sont des logements qui se libèrent. S'ils ne se libèrent plus, il n'y a plus d'offres. Donc, vous voyez que dans ce contexte-là, les personnes restent dans leur logement quand elles ont un logement, c'est bien, mais peuvent aussi rester dans des situations d'hébergement, dans des structures d'hébergement chez des tiers, qui est un phénomène massif, hein, mm-hmm. qu'on méconnaît trop souvent, ou parfois même à la rue, ou dans des conditions tout à fait indignes. Donc, notre idée, c'est de dire, on est dans une situation de crise, ok. Dans cette situation de crise, ce sont les plus vulnérables qui sont les plus touchés. Il faut qu'on le mesure. Et il faut que les collectivités locales, qui ont un certain nombre de pouvoirs en matière de logement, interviennent et prennent la mesure de cette crise, dans un contexte aussi qui est difficile pour elles, hein, puisque l'État ne fait pas du logement une priorité, l'État a réduit ses aides au logement. Pour autant, il faut que les collectivités locales interviennent pour un peu réparer les dégâts, on pourrait le dire comme ça. Voilà, c'est autour de ça qu'on a essayé d'organiser cette matinée d'échange.
Des collectivités locales grenobloises seront présentes ?
Oui, les intercommunalités notamment, qui ont un pouvoir et qui vont, dans le cadre de la prochaine loi de décentralisation qui est annoncée, devenir des autorités organisatrices de l'habitat sur leur territoire. Elles ont déjà un certain nombre de pouvoirs, elles en auront encore plus demain. D'où l'intérêt d'interpeller les intercommunalités. Il y aura des représentants de la métro, du Pays Voironnais et du Grésivaudan, hein, pour répondre à nos interrogations. Il s'agit de les interpeller, il faut en faire des alliés pour intervenir et faire remonter la question du logement sur la pile des priorités. Voilà, c'est ça l'objectif de fond. Or concrètement, on a demandé à Cédric Van Stevendel d'intervenir, d'être un peu le grand témoin de cette matinée, qui est maire de Villeurbanne, qui a été en charge de responsabilité pour l'Union sociale pour l'habitat, c'est-à-dire qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux au niveau européen, et qui a été un des animateurs du Conseil national de la rénovation, et donc ayant en charge la question du logement dans le cadre de ce groupe de travail élargi, voilà. Donc, et puis, il y a son intervention, il va essayer de nous donner quelques pistes, suite à quoi les acteurs grenoblois, isérois, interpelleront les politiques qui sont là pour essayer de dégager des priorités, et voilà.
Est-ce qu'il y a une sensibilité des élus grenoblois ou de la métropole à ces questions ?
Oui, la question du logement, c'est une question qui est prise en charge au niveau métropolitain. Pas autant qu'on le souhaiterait, peut-être pas autant qu'il faudrait pour répondre aux besoins, mais on a là une collectivité qui est impliquée en matière d'habitat, c'est évident. Ça facilite aussi le dialogue et ça peut rendre les échanges fructueux, voilà.
Ah, super. Et on parlait donc des plus démunis. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la situation des personnes sans domicile ou alors avec des solutions d'hébergement temporaire ?
Oui, cette situation-là des personnes privées de domicile personnel, on préfère ce thème-là à celui de sans-abri, parce que celui de sans-abri recouvre effectivement ceux qui n'ont pas de logement, qui dorment à la rue ou dans des endroits tout à fait impropres à l'habitation. Donc il faut prendre en charge ces personnes-là, ce sont les premières qui doivent être prises en charge, mais le phénomène de la privation de domicile est beaucoup plus large. Ce sont toutes celles qui sont dans un hébergement d'urgence. Hein. Aujourd'hui, dans l'Isère, il y a à peu près 1600 places d'hébergement d'urgence. Vous avez plus de 2000 places d'hébergement qu'on appelle d'insertion. Vous avez beaucoup de places, un millier de places aussi réservées pour les demandeurs d'asile. La question, c'est que, et notamment en matière d'hébergement d'urgence, l'État a développé l'offre ces dernières années, mais pas à la hauteur
de la demande.
C'est complètement évident pour vous donner quelques chiffres, mais sans vouloir trop insister. Les signes de cette saturation, par exemple, pour l'hébergement d'urgence, vous avez eu en 2022, on n'a pas encore les chiffres, 2023, mais plus de 4000 ménages différents qui ont appelé le 115 pour avoir une place d'hébergement. Et sur ces 4000 ménages différents qui ont appelé le 115, vous n'en avez eu que 13 à 15%, disons, qui ont obtenu une place. Il faut bien, ce n'est pas une place immédiatement pour le soir. C'est une place qu'elles ont obtenue parfois par plusieurs jours, quand ce n'est pas plusieurs semaines, voire un mois ou deux, pour avoir la place qu'elles ont sollicitée. L'hébergement d'urgence est complètement saturé aujourd'hui, au point qu'on a des situations complètement dramatiques, avec des femmes et des enfants à la rue. Vous pouvez avoir des femmes qui sortent de la maternité. C'est arrivé à Grenoble, à la fin de l'année 2022, des femmes qui sortent de la maternité avec leur enfant sans avoir de solution pour dormir le soir. C'est ça la situation. Fin novembre, au niveau national, vous aviez 3 000 enfants à la rue fin novembre. Et ils ne sont pas tous recensés. Quand je vous donne ce chiffre-là, qui a été publié notamment par l'UNICEF.
Donc, en France, 3 000.
3 000, oui. À Grenoble, on est, d'après des estimations qui sont faites notamment par le réseau École sans frontières, Éducation sans frontières, c'est de l'ordre de 400. Vous savez, il y a plusieurs écoles sur Grenoble et Fontaine qui, le soir, accueillent des parents avec leurs enfants. Les enfants sont scolarisés dans
l'école.
Dans l'école. Et c'est insupportable pour les enseignantes de savoir que les enfants vont être à la rue. Donc il y en a qui se sont mobilisés. Il y a plusieurs écoles qui sont ouvertes. Ce n'est pas une solution durable. Mais ça indique la gravité de la situation. Il y a un autre indicateur qui est très important, c'est ce qu'on appelle les domiciliations. Les domiciliations, c'est fait pour que ceux qui n'ont pas d'adresse et une adresse pour recevoir leur courrier.
Une boîte postale, quoi.
C'est une boîte postale, c'est notamment le Centre communal d'action sociale, à Grenoble, qui a cette tâche. Eh bien, entre 2019 et 2022, le nombre de domiciliations est passé de 1900 à 2900, c'est-à-dire une augmentation de 50%, vous voyez Et on a des chiffres qui indiquent aussi qu'il y a phénomène que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'hébergement chez des tiers. Tous ceux qui ne trouvent pas une place en hébergement d'urgence ou d'insertion, qui ne sont pas pris en charge par les structures qui accueillent les demandeurs d'asile, sont très souvent accueillis, hébergés par un tiers, un ami, une connaissance et autres. Et ce phénomène-là est massif. On a des chiffres qui remonte à 2019-2020, où on avait fait une évaluation dans le cadre de la nuit de la solidarité qu'on avait organisée un tour pour tous avec la métro. On arrivait à peu près à 1700 personnes dans les structures d'hébergement que je vous indique là. Eh bien, on a fait à la suite de cette nuit de la solidarité un travail d'évaluation du phénomène de l'hébergement chez des tiers. Il était deux fois plus important. C'était de l'ordre de 3000 personnes qui étaient hébergées chez des tiers. Et qui est une situation qui n'est pas souhaitable souvent, ni pour l'hébergé, ni pour l'hébergeur. Ça crée des difficultés aux deux. C'est mieux que de dormir à la rue. Et il faut se féliciter de cette solidarité citoyenne, en quelque sorte, qui s'exerce. Mais vous voyez bien que tous ces indices que je vous donne, tous ces chiffres, montrent l'ampleur de ce phénomène.
Que récemment, ça s'aggrave vraiment.
Et ça s'aggrave.
Le 115, c'est un numéro d'urgence ?
C'est le numéro d'urgence que vous pouvez appeler quand vous recherchez un hébergement pour le soir, avec, je vous l'ai dit, peu de chances de l'obtenir. Il y en a 13 à 15% qui, en 2022, l'ont obtenu, après plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais c'est aussi un numéro qui peut être utilisé par des citoyens. Vous voyez quelqu'un à la rue qui, manifestement, va dormir sous un porche, à l'abri d'un garage ou autre. Vous pouvez appeler le 115.
Et pour revenir aux journées du 1er février, en première partie, donc, il y aura une conférence de Cédric Van Stevendael. Et ensuite, c'est quoi
ce sont les acteurs locaux qui vont faire constat d'un certain nombre de difficultés, insuffisance de la construction, insuffisance de la mobilisation du parc privé, difficulté d'accompagnement des ménages, et puis les difficultés que je viens d'évoquer avec vous pour interpeller les élus, À suite de quoi les représentants de la métro du Pays Voironnais, du Grésivaudan répondront. Hein, et puis on a demandé à Cédric Van Stevendel de conclure la matinée. Un point sur lequel je voudrais insister, qui fait un peu l'originalité de cette matinée, c'est le fait qu'elle est organisée par un toit pour tous, mais en coopération, en partenariat, avec un certain nombre d'acteurs qui ne se manifestent pas toujours publiquement ensemble. Les bailleurs sociaux, les organismes HLM, à travers l'association des bailleurs sociaux de l'Isère, les structures qui gèrent de l'hébergement d'insertion, notamment le groupement des possibles, mais aussi les accueils de jour qui sont au contact des populations privées de domicile. Donc ce sont ces acteurs-là qui, en quelque sorte, ensemble, interpellent le politique et couvrent une large gamme de difficultés et de problèmes, parce que tout se tient, quoi.
Et c'est des rencontres qui sont ouvertes à tous et à toutes ?
C'est ouvert à tous, oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur le site d'un toit pour tous pour vous inscrire. Il reste encore quelques places et puis vous pourrez peut-être en bénéficier compte tenu des désistements qu'il y a toujours dans ce genre de manifestation.
J'ai vu qu'en janvier, pour comment dire, un petit peu pour préparer les rencontres, il y a eu 3 webinaires. Est-ce que vous avez l'intitulé de ces webinaires ?
L'idée de ces webinaires, c'était d'apporter un certain nombre d'éléments d'information à ceux qui participeront à la demi-journée du 1er février, à la fois sur la nature des solutions qui sont disponibles, sur quelle pouvait être l'action possible des intercommunalités en matière de logement social et très social, et puis sur la question de l'attribution des logements sociaux, des éléments de connaissance pour fixer en quelque sorte le paysage, quoi.
Pour qu'on arrive renseigné.
Voilà.
Donc on peut aussi retrouver ces webinaires sur le site d'Un Toit pour Tous ?
Tout à fait, ces webinaires sont accessibles sur le site.
Très bien. Et alors pour terminer cette émission, est-ce qu'on pourrait reparler un petit peu du rapport annuel de 2023 ou de 2024 ?
Non, c'est 2024.
De 2024. Oui. Je ne sais pas si c'était un retour sur l'année 2023.
Il porte sur l'année 2023, mais il est daté de l'année où il est publié, quoi.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les conclusions de ce rapport qui va sortir donc ce jeudi aussi ?
Oui, il va sortir ce jeudi. C'est un rapport qui a... Comment dire ? Au niveau d'Un Toit pour Tous, on s'est situé un peu dans le pas de la Fondation Abbé Pierre, quoi. La Fondation Abbé Pierre a un rôle d'alerte, hein, sur les situations les plus difficiles que vivent un certain nombre de nos concitoyens. En 2023, on a mis en évidence... la situation des femmes par rapport à la question du mal logement, par rapport au logement et au mal logement. Avant, on a pu évoquer la question du surpeuplement. Vous voyez, un certain nombre de questions très concrètes. Cette année, le rapport porte sur l'habitat indigne, habitat insalubre ou toute forme d'habitat qui est indigne, en insistant sur un point que ce qui est indigne, ce n'est pas l'habitat, c'est la situation qu'on fait vivre aux personnes qui sont dans ce type d'habitat. Et qu'au nom de ce principe de dignité, on devrait tous être concernés par cette question. Donc ça, c'est la partie centrale du rapport. Et puis, comme chaque année, il y a un chapitre qui est consacré... à l'analyse de la politique conduite par le gouvernement au cours des 12 derniers mois, au cours de l'année 2023, pour d'abord porter à connaissance ce qui a été fait, qui n'est pas très glorieux, peut-être sauf dans un domaine qui est celui de la rénovation thermique des logements, même si on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait pour tenir les objectifs de l'accord de Paris. C'est un des domaines dans lesquels il y a eu des avancées. Dans tous les autres domaine concernant le logement,
on n'est pas bon. Sans doute, on va dire, entre guillemets, grâce à la crise énergétique.
Oui.
C'est devenu une priorité de rénover.
Mmh.
D'accord, donc dans ce rapport, ce sera la problématique des logements insalubres et indignes.
Oui.
Et puis
l'analyse politique. Peut-être j'insiste aussi, parce que dans chacun des rapports, il y a une partie conséquente. Hein, c'est la moitié d'un rapport qui fait à peu près 300 pages, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il y a la moitié du rapport qui est consacrée à l'analyse du mal logement, des cinq dimensions du mal logement que j'évoquais, qui fournit beaucoup d'éléments d'analyse, beaucoup de chiffres pour ceux qui travaillent dans ce domaine, mais aussi pour ceux qui sont intéressés par cette question du mal logement. Vous trouvez toutes ces données dans le rapport. Il sera disponible sur le site de la Fondation Abbé Pierre jeudi soir, 1er février. Et vous pouvez, il y a une possibilité aussi de commander le rapport directement à l'imprimerie. Vous avez le lien sur le site. J'ajoute que ce rapport est gratuit. Il est gratuit, mais il a un coût. Il est financé par les dons à la Fondation Abbé Pierre.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, René Balin, pour votre intervention. Donc, on retient les rencontres ce jeudi et le rapport qui est donc disponible, qui sera disponible sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Je voulais aussi remercier Rémi qui a fait la technique de notre émission. Bonne soirée à tous.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.